Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La région de Calais est loin d'en avoir fini avec la question et les tensions migratoires. Affrontement hier entre CRS et migrants. Ces derniers et des bénévoles qui les accompagnent dénoncent une inhumanité, voire un harcèlement de la part des forces de l'ordre. Des accusations rejetées par le préfet du Pas-de-Calais.
Lâcher de cerfs-volants en feu depuis Gaza pour mettre le feu aux terres agricoles et aux forêts chez le voisin israélien. C'est une technique utilisée par des Palestiniens ces dernières semaines pour dénoncer l'occupation de la bande de Gaza. Face à eux, l'armée israélienne s'organise.
À la fin de ce journal, le choix de la rédaction nous emmènera en Libye et plus précisément à Misrata, la troisième plus grande ville de Libye qui avait l'image d'une forteresse, jusqu'à l'assassinat du maire de la ville en décembre dernier. Avec cette attaque contre un homme modéré qui prônait la paix, ce sont également tous les espoirs de la jeunesse qui se sont envolés, vous l'entendrez. Un CRS a été blessé hier à Calais par un projectile lancé par des migrants qui voulaient monter sur des camions en partance pour l'Angleterre. Nouvelle preuve de la situation toujours tendue dans le Calaisis, un an et demi après le démantèlement de la jungle de Calais. Dans un rapport publié hier, l'association L'Auberge des Migrants pointe, elle, du doigt l'État et les forces de l'ordre qui multiplient les opérations d'évacuation, qui confisquent ou dégradent des biens appartenant aux migrants. Le reportage à Calais de Delphine Evenou.
21h, les bénévoles viennent distribuer tentes et couvertures à plusieurs dizaines d'Érythréens. Les migrants expliquent qu'ils se sont fait expulser le matin même de leur abri de fortune. Daniel, 20 ans.
Quand les policiers viennent, parfois, ils utilisent du gaz pendant qu'on dort. C'est dangereux. Mon téléphone, ils l'ont pris et jeté, il est cassé. Je n'ai plus de contact avec mes proches. Et parfois, ils prennent une chaussure, et alors je marche pieds nus. Ce n'est pas humain.
Dans son rapport, l'Auberge des migrants dénombre 142 expulsions sur les différents lieux de vie des migrants depuis l'automne. Loan Torondel, l'un des bénévoles.
À cause de ces expulsions-là, les exilés ont extrêmement peur de perdre toutes leurs affaires. Du coup, ils n'osent pas partir de leurs abris. Et quand on leur propose d'aller à l'hôpital pour se faire soigner, ils refusent. Ça complique l'aide matérielle parce que du coup, on n'a plus de stock de tentes, on n'a plus de stock de couverture. C'est des actes quotidien qui vise vraiment à épuiser les gens.
Accusation mensongère, rétorque le préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry, qui ne veut pas voir une nouvelle jungle se reconstituer.
Les accusations régulièrement formulées ne sont généralement assorties d'aucune preuve. Elles sont généralement diffusées sur les réseaux sociaux. Nous menons à chaque fois une enquête. Jusqu'ici, aucun élément de preuve n'a pu être apporté. Pour celles et ceux qui mettent en cause l'action des forces de l'ordre, il y a un moyen simple, c'est de saisir la justice. Et force de constater qu'à Calais, il y a très peu de plaintes, où elles ne débouchent sur rien.
Un bénévole sourit, dépité, tentez d'aller porter plainte contre les forces de l'ordre dans un commissariat, vous verrez.
37 hommes et 9 femmes sont morts noyés hier, des Éthiopiens vraisemblablement, alors que leur frêle bateau surchargé a chaviré à l'approche du Yémen après avoir traversé le golfe d'Aden. 16 personnes sont toujours portées disparues. Il doit prêter serment aujourd'hui devant le roi Felipe VI. Le nouveau chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sanchez, a présenté son gouvernement hier, gouvernement pro-européen et à majorité féminine, 11 femmes nommées ministres ainsi que 6 hommes. En Israël, la dernière menace contre laquelle le gouvernement se mobilise, ce sont des cerfs-volants enflammés. Une nouvelle tactique utilisée par des Palestiniens depuis plusieurs semaines, depuis la bande de Gaza. Cette stratégie consiste à suspendre un chiffon en feu à un cerf-volant, puis à le laisser s'envoler de l'autre côté de la frontière pour mettre le feu aux terres agricoles et aux forêts israéliennes. 900 hectares ont déjà flambé à cause de 200 cerfs-volants lâchés depuis Gaza. Les autorités israéliennes tentent de s'organiser face à cette nouvelle menace, Étienne Monin.
Sur la route du kibboutz de Nahal Oz, à quelques dizaines de mètres de la frontière avec Gaza, on voit régulièrement les marques noires des incendies qui font comme un patchwork dans les cultures de blé. Le feu est devenu une menace permanente qui perturbe le quotidien dit Aviad, pompier improvisé qui prend d'importants risques avec 40 autres volontaires du kibboutz.
Ça peut arriver à n'importe quelle heure du jour, vous vous en rendez compte avec l'odeur. Et on se prévient sur WhatsApp, on a un groupe pour cela. On regarde si l'un d'entre nous est à proximité, s'il peut foncer sur l'incendie pour combattre le feu. Parce que des feux, il y en a dans tout le secteur. Donc les pompiers mettent du temps avant de venir. Alors ils nous disent, allez-y, faites ce que vous pouvez pour éviter que le feu touche le kibboutz.
Hier, les flammes se sont approchées de la ville de Sderot. Le débat sur le sujet se tend de plus en plus, alors que les premiers concernés, parmi lesquels Iran Raramim, plaident pour une solution à long terme face au bourbier gazaoui.
Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est que je ne vois pas arriver de solution. Tous les débats, dans le gouvernement ou dans l'opinion publique, c'est qu'il faut frapper Gaza encore plus fort, ça ne résoudra rien.
À Gaza, depuis 2 mois, les cerfs-volants enflammés sont devenus l'outil numéro 1 pour perturber le camp israélien. Ils sont poussés par le vent de la mer. Ils sont perfectionnés maintenant par des ballons gonflés à l'hélium. L'un des derniers qui a touché le kibboutz de Nahal Oz, c'était un ballon de Bob l'éponge.
Elle avait été marquée par les émeutes urbaines de 2005. La ville de Clichy-sous-Bois, en banlieue parisienne, inaugure aujourd'hui les ateliers Médicis, une déclinaison de la célèbre villa éponyme de Rome. Des artistes en résidence y développent des projets culturels en liaison avec les habitants. Christine Monclin.
Dans la France en état d'urgence de cette fin 2005, des élus locaux s'interrogent. Comment faire émerger une citoyenneté au bout de ce tunnel de malheur? Les maires de Clichy et de Montfermeil, voisins géographiques et adversaires politiques, s'entendent sur un socle commun. Ce sera par la voie de la création et de la culture. L'étincelle vient d'un journaliste, Jérôme Bouvier, qui fait venir en résidence des dizaines de grands noms de la photo et de la littérature dans la cité. Il propose en quelque sorte de marier la marque Clichy, symbole malgré elle de désespérance sociale, avec celle de la Villa Médicis, emblème de l'excellence française. C'est ensuite grâce à Frédéric Mitterrand que le projet voit politiquement le jour, quand le ministre de la Culture qu'il est alors fait racheter par l'État une tour, la tour Utrillo, un vrai repère dans la ville, pour en faire la future résidence artistique. Abandonné par Aurélie Filippetti, puis repêché par Fleur Pellerin, le projet de villa devenue tour sort donc de terre aujourd'hui sous la forme d'un lieu éphémère, une structure légère en bois, où artistes et habitants travaillent déjà ensemble depuis un an. Éphémère car entre-temps, la tour Utrillo a été détruite, trop compliquée à réhabiliter, car l'État et les communes attendent l'arrivée d'un métro pour construire une Villa Médicis en dur, un avant les murs qui pourrait donc durer, qui pourrait aussi du coup fragiliser le projet, sauf si la volonté politique est bien là.
À suivre dans le journal de 8h avec Clara Lecoq-Réal, des salles à prix cassé de la location de matériel offerte. Une enquête de la cellule investigation de Radio France révèle qu'Emmanuel Macron a bien bénéficié pendant sa campagne de ristournes parfois conséquentes de la part de plusieurs entreprises. Dossier complet, facture à l'appui, à découvrir déjà sur franceculture.fr.
7h38, vous écoutez les matins de France Culture et c'est la suite du journal de Catherine Dutu avec le choix de la rédaction. Il nous emmène ce matin en Libye, plus précisément à Misrata, la troisième plus grande ville du pays, qui était encore il y a quelques mois la seule et unique ville libyenne à peu près sécurisée.
Avec des groupes armés parmi les plus puissants du pays pour protéger cette ville de l'Ouest face aux troupes du général Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye. La réputation de Misrata comme forteresse est tombée avec l'assassinat du maire de la ville en décembre dernier. Avec cette attaque contre un homme modéré qui prônait la paix, ce sont aussi tous les espoirs de la jeunesse qui se sont envolés. Envoyé spécial pour la radio-télévision suisse et France Culture, Maureen Mercier revient de Libye. Elle y a recueilli les confidences de professeurs qui enseignent le français.
Walid, la trentaine, et son collègue se réunissent dans ce café tous les soirs pour corriger les travaux de leurs élèves. Lorsque le maire a été assassiné, leurs derniers espoirs se sont effondrés.
On l'a kidnappé à la porte de l'aéroport, il était tué le soir même. C'était vraiment triste parce qu'il voulait bien approcher tous les partis politiques ici à Misrata, il voulait le retour en fait de calme.
La fin des conflits, cela aurait permis de redresser l'économie. Si Walid et son collègue sont devenus profs de français, c'est parce qu'avant que la Libye ne sombre, avant la révolution, étudier et voyager en Europe était à leur portée. Aujourd'hui, Walid ne peut même plus imaginer s'offrir un voyage à quelques heures d'ici, dans la capitale Tripoli.
Je pouvais vivre, je pouvais faire des allers-retours pour la France, pour suivre mes études.
Walid ne peut plus imaginer voyager.
Mais maintenant,
comme tant d'autres, il ne peut même plus imaginer se marier.
Un mec pour se marier, alors il faut une maison. C'est trop cher. Hein. Des fois, je suis triste parce que je ne suis pas marié. Des fois, je suis content parce que je ne souffre pas comme les autres.
Son collègue, lui, a réussi. De loin, il semble épanoui, mais...
J'arrive pas.
Il me dit être incapable de s'exprimer. En Libye, le rire cache la tristesse. Souvent, plus on rit, plus on est triste.
Le souci, c'est l'avenir des enfants. J'arrive pas, en fait. Avec mon salaire, mon travail, j'arrive pas avec l'augmentation des prix, en fait. J'ai ma petite qui a de la fièvre, alors... Par exemple, pour les médicaments de la fièvre, il y a un sirop. Je l'ai acheté aujourd'hui à 36 dinars. Avant... C'était 2 dinars, seulement 2 dinars, oui.
Walid et son ami ne regrettent pas la mort de Kadhafi, mais leur pays s'est disloqué. Ils ne le disent pas au micro par peur, mais les salafistes, qui sont de plus en plus présents dans leur ville, les pétrifient.
C'est à cause de Kadhafi. La Libye, avant, c'était Kadhafi. Et maintenant, il est mort, alors. La Libye aussi, elle est tombée à terre. Et c'est à cause de 42 ans d'ignorance. Il n'y a pas de société, en fait. À mon avis, il nous faut minimum 100 ans.
Vous vous sentez comment?
Perdu.
Bah, comme vous, hein, on ne comprend rien, hein, franchement.
Vous avez dit désespéré?
Oui, malheureusement.
Ici, ce sont les hommes qui ont la charge financière des familles. Pour la première fois, Walid entend de la bouche de son ami.
J'ai plus d'espoir, vraiment. J'ai plus d'espoir.
Je vous le cache pas, c'est la première fois qu'on dit qu'on est désespéré. Hein. Même à nous deux, parce qu'on est amis, on a fait nos études ensemble.
En fait, notre désespoir aux gens, on ne montre pas. Parce que si un jour... Je vais montrer mon désespoir aux gens. Alors, c'est le suicide, en fait. Soit on monte la mer, soit on se suicide.
Soit vous partez en mer.
Oui. Si j'arrive à le faire, moi, je n'hésite pas.
Les Libyens sont de plus en plus nombreux à tenter le départ clandestinement vers l'Europe. Du jamais vu jusqu'ici.
Le choix de la rédaction signée Maureen Mercier est à retrouver sur francecultures.fr. Le temps de ce jeudi 7 juin, orageux une fois de plus dans l'Est et le Nord de l'Hexagone. Le département de l'Eure est lui maintenu en vigilance orange pour des inondations. Les températures sont comprises ce matin entre 12 et 18 degrés d'ouest en est. Cet après-midi, comptez de 17 à 20 degrés de la Bretagne jusqu'à la région des Hauts-de-France. 20 à 25 degrés partout ailleurs d'ouest en est.